du point de vue du constat, en effet, il y en a dans presque tous les pays maintenant, que ce soit en mer de Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou que ce soit au Bénin ou ailleurs, effectivement, de plus en plus, les nouvelles élites veulent prendre toute leur part dans les débats politiques, dans la conquête du pouvoir d'État, et en cela, je veux dire, ils en ont toute la légitimité. Le seul problème, c'est que après ce constat-là, il y a des cadres spécifiques. Vous connaissez toute la problématique des Afriques plurielles, et que même s'il y a des ressemblances dans beaucoup de pays, il y a quand même quelques spécificités parfois qui amplifient les événements observés. Vous savez, dans un pays comme le Bénin, où la conception de l'État est totalement erronée, je dirais même péjorative, où les gens considèrent l'État juste comme une immense gâteau auquel il faut accéder pour prendre sa part, effectivement, il n'y a aucune idéologie derrière la conquête du pouvoir. On n'y va pas pour réaliser quoi que ce soit, on y va d'abord et avant tout, en guillemets, pour prendre sa part. Lorsqu'on est dans des cas pareils, effectivement, c'est parfois désespérant. Mais lorsqu'on est dans des cas où l'on pense, où les élites pensent pouvoir apporter quelque chose, effectivement, ça devient beaucoup plus encourageant. À ce moment-là, il faut juste prendre le temps de les observer dans la stratégie de conquête des pouvoirs et lorsqu'ils y arrivent dans l'exercice de pouvoir, pour voir si réellement les engagements qu'ils ont pris, ils les ont tenus. Mais au Bénin, il est de notoriété publique que de toutes les façons, tout le monde doit accéder à l'État pour prendre sa part. Je pense que cette conception est plus ou moins partagée dans toute l'Afrique, mais à des degrés un peu différents. Voilà, c'est ce que je pense.
Mmh. Oui, parlant du Bénin, on sait que deux rois dominent actuellement la scène politique nationale, le roi du coton et celui du poulet. Ça va peut-être donner des idées à d'autres qui veulent accéder à la magistrature suprême de se faire une petite fortune pour s'imposer dans l'arène.
Oui, bien sûr, mais une fois de plus, la spécificité du Bénin, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que l'émergence des opérateurs économiques dans la scène politique est vieille. Elle date déjà de la première législature. Et donc, on se retrouve avec une Assemblée nationale où il y a à peu près 80% d'opérateurs économiques et les 20% qui ne sont pas opérateurs économiques sont des parrains d'opérateurs économiques. Donc en réalité, c'est des gens, justement dans le cadre de cette conception qu'ils ont, pensent qu'il faut y aller pour prendre leur part. Et on le faisait depuis. En fait, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de gentleman agreement entre eux, c'est-à-dire nous allons maîtriser le pouvoir législatif, mais nous n'irons quasiment jamais à l'élection présidentielle. Et effectivement, il n'y en a presque jamais eu, sauf en 2011, où il y a eu un d'entre eux, Issa Salifou, qui a même fini quatrième. Mais il n'avait pas, l'envergure imposante, et donc probablement les gens ne se sont pas particulièrement intéressés au phénomène. C'est à partir de 2016, maintenant que les deux grands rois dont vous avez parlé, le roi du coton et le roi du poulet, se sont impliqués au niveau de la présidentielle. Sinon, c'est ce que je vous disais, comme dans le cadre, l'environnement intellectuel au Bénin est porté sur une conception totalement péjorative de l'État, ceux qui y vont savent que c'est pour prendre leur part, et donc pour y accéder, on met le maximum d'argent en amont, considéré comme un préfinancement, et quand on arrive là-bas, on se sert avec toutes les conséquences que cela implique, notamment le rapport à la corruption, à la lutte contre l'impunité et tout. C'est des conséquences qui sont directement tirées de la conception que l'on a de l'État.
Pensez-vous, comme beaucoup d'autres analystes, que politique rime avec l'argent? L'exemple type d'Emmanuel Macron, qui était quand même issu d'un milieu financier très riche en France.
Oui, enfin, je veux dire, en France, c'est particulier. Mais il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de politique sans argent. Vous avez donné le cas d'Emmanuel Macron parce que cela apparaissait comme une exception à la règle depuis le début de la Ve République. Mais aux États-Unis, tous les 4 ans, la collecte de fonds est juste inimaginable. Et ça, on n'en parle pas parce qu'on a fini par s'y habituer. Donc, effectivement, l'argent, on en a besoin dans la politique, mais l'argent en politique, c'est d'abord et avant tout pour accompagner un programme, pour accompagner une idéologie et non pas pour appeler de l'argent. Voilà. Quand on prend de l'argent pour vendre ses opinions, quand on prend de l'argent pour vendre la qualité d'une candidature, ça n'est jamais pareil que lorsqu'on prend de l'argent juste pour inféoder l'État. Et du coup, chez nous, l'État est prisonnier de ces acteurs politiques qui investissent beaucoup d'argent. C'est la différence majeure qu'il faut y trouver. Lorsque Barack Obama gagne avec probablement la collecte de fonds la plus inoubliable de l'histoire américaine, l'État américain n'est pas devenu pour autant prisonnier de Barack Obama et de son lobby. Et puis de suite, on peut le multiplier. C'est pareil avec Emmanuel Macron. On n'a pas le sentiment que l'État français soit devenu le prisonnier d'un groupe de financiers particulièrement véreux. Alors qu'ici, lorsque le roi du coton gagne le pouvoir, on sent immédiatement que tout se fait en son avantage avec des conflits d'intérêts au quotidien. Encore heureux que récemment, il y a eu une nouvelle plainte contre le secrétaire général de Macron pour rappeler que là-bas aussi, il peut y en avoir. Mais ça n'est pas la règle. C'est important de le souligner.